qui va être vécu par certains enfants. Ah, lui, c'était le chouchou dans la famille, le préféré de papa, le préféré de maman. Une femme dans la quarantaine qui me partageait en relation d'aide son sentiment d'avoir toujours vécu avec un sentiment de rejet dans sa vie. Elle a toujours la peur d'être abandonnée. Et puis, elle se rappelait très vividement, à l'âge de 4 ans, un petit incident qui pourrait paraître insignificatif, mais où son papa l'a tassé, l'a mise de côté, parce qu'il voulait prendre la photo de la petite sœur d'un an. Et la parole du père, c'était « Ôte-toi de là ». Puis elle, comme elle l'avait reçu dans son cœur, c'était « Tu ne fais pas partie de notre amour, on ne veut pas de toi ». C'était peut-être pas juste cet incident-là, je ne me rappelle plus l'histoire de cette femme, mais pour dire que le vécu par rapport à la fratrie, les frères et sœurs, peut aussi avoir un impact. La compétition, la comparaison, la préférence dans la famille. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les grands-parents, alors ça aussi, ça peut avoir un impact dans notre vie. Alors un homme, une autre histoire, c'était un homme dans la soixantaine qui vivait de profonds problèmes existentiels. Il me racontait qu'à l'âge, quand il était un enfant, il voulait être un missionnaire. Puis il dit, je vis dans une prison depuis 55 ans, parce qu'à l'âge de 10 ans, j'étais violé par mon cousin plus vieux. Puis là, ça a été super mal géré par les parents, par la famille. Puis à nouveau, à l'âge de 13 ans, un prêtre a tenté de le violer. Alors lui voulait être un missionnaire, puis ça a complètement effondré sa vie, son monde intérieur s'est effondré. Donc, parfois, il y a des histoires vécues avec un oncle abuseur. Je pense à cette femme qui vivait une grande difficulté parce qu'un oncle abuseur a abusé d'elle et les parents ne l'ont pas protégée ensuite de cet oncle-là. Et c'est comme si elle ne comptait pas, n'existait pas ou n'était pas importante aux yeux de ses parents. Il y a aussi ce qu'on peut avoir vécu à l'école. Les amis d'enfance, on parle beaucoup d'humiliation aujourd'hui. D'intimidation à l'école. Alors là aussi, il y a des blessures qui peuvent se passer. J'en ai vécu moi-même quand j'étais au séminaire. On peut vivre le rejet par les autres, les moqueries. Parfois, si on a un handicap physique, les gens vont rire de nous. Les professeurs en classe, parfois, peuvent humilier un enfant devant tout un groupe. Il y a des blessures qui peuvent se vivre dans un contexte de groupe. Et finalement, il y a tout notre environnement social qui aussi peut faire partie de nos blessures d'enfance. Parfois, c'est le simple fait d'avoir été élevé par la télévision, passer des heures devant la télévision parce que papa et maman ne sont pas là, ou élevé par Internet, être exposé jeune à la pornographie par d'autres personnes, ou à la violence qui peut nous avoir traumatisés. Donc, il y a d'autres éléments dont on doit tenir compte qui peuvent faire partie de blessures du passé que Dieu veut guérir, dont on doit tenir compte dans notre développement. Ça va jusqu'à maintenant, vous me suivez? OK. Alors, je vais décrire certaines étapes. Ce n'est pas un schéma, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une technique, mais certains éléments importants pour avancer dans la restauration de notre identité. Le premier, le plus important, c'est venir dans la présence du Père. Oui. Comment? Vous sentez la chaleur? Oui, si vous la sentez là, imaginez, moi, je vais bientôt enlever ma chemise. Pour monter, il refroidissait, il devient plus chaud maintenant. Dans le verset qu'on a lu, dans 2 Corinthiens 1, il y a deux mots importants qui définissent Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous vous rappelez, c'était quoi les deux mots qui caractérisent Dieu? Non. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père? Oui, ça, c'en est un des deux. Et l'autre avant? Ça, c'est la version qui n'est pas la version Colombe. Hein? Non. Le Père compatissant. Alors, Dieu, deux caractéristiques sur notre Père, parce que si on dit on veut venir dans la présence du Père, il faut savoir c'est quoi son cœur, qui est ce Père-là. Elle est un Dieu de compassion. Et qu'est-ce que le mot compassion veut dire? J'ai une petite définition pour vous ici. C'est l'action d'être sensible et prendre part aux souffrances d'autrui. Le plus important, il y a deux choses très importantes là-dedans. Ton Père céleste est sensible. Un de mes passages préférés par rapport à la sensibilité de Dieu dès l'Ancien Testament, c'est dans Exode, lorsque Dieu paraît dans le buisson ardent et parle à Moïse. Et là, si vous lisez attentivement, je pense que c'est Exode 3, Dieu raconte, il dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. » Non, ça ne dit pas ça. « J'ai bien vu. J'ai entendu son cri. Je connais. » Et le mot « connaître », c'est intime, hein? Ce n'est pas juste intellectuellement. J'ai lu le journal ce matin, j'ai vu des nouvelles à la télévision. Non, je connais ses douleurs. Ça, c'est mon Dieu, c'est ton Dieu. Dieu est sensible. Quand tu souffres, Dieu souffre. Et c'est la deuxième partie. Il prend part aux souffrances d'autrui. Je ne sais pas si quelqu'un est déjà venu vous consoler, tu es en train en larmes, tu es en train de t'effondrer. Quelqu'un vient à côté de toi, ben, c'est pas bien grave, t'en fais pas. C'est pas grande compassion, il n'y a pas grande consolation là-dedans. Mais quand quelqu'un pleure avec toi, et ça m'arrive parfois de pleurer avec les gens, je me retiens quand même un peu, là, parce que je ne veux pas perdre le nord dans la thérapie, mais parfois, il y a des choses qui sont vraiment touchantes, puis j'ai prié avec les gens, puis j'ai peut-être pleuré avec la personne, parce que c'est vraiment touchant. Dieu pleure quand on a de la peine. Dieu, c'est ce genre de Dieu qu'on a, un Dieu compatissant. Le mot compatissant veut vraiment dire un Dieu sensible qui prend part à tes souffrances. Alors ça, c'est important dans la démarche de guérison, de réaliser que Dieu n'est pas insensible, Dieu ne s'en fout pas. Quand je vous ai raconté, c'était pendant l'atelier cet après-midi, l'histoire de cette femme qui a été violée un soir en rentrant à l'université à Montréal, mais Dieu a eu le cœur brisé. Il dit, si moi, j'entendais que ma fille avait subi un abus sexuel, j'aurais le cœur brisé, mon cœur de père. En fait, j'ai une fille qui, à l'âge de 18 ans, a eu un gros accident d'automobile. Elle a eu le fémur cassé, la mâchoire cassée, puis le bassin fêlé. Alors, quand j'ai vu la radiographie à l'hôpital à Cowansville, qui n'est pas très loin d'ici, il a fallu que j'aille me coucher parce que j'étais en train de perdre un peu. Parce que c'est ma fille, je voyais ses os cassés sur... Votre fille, elle a sept cassés, il fallait que j'aille m'étendre. C'est comme... Alors, un père ressent la douleur de sa fille et ton Père céleste ressent ta douleur. Et le mot « consoler », le Dieu, remarquez bien que c'est dit le Dieu de quelque consolation? Toute consolation. C'est-à-dire Dieu, lui qui nous console dans quelques afflictions, non, toutes nos afflictions. Tout ce que tu vis est important pour Dieu. Il n'y a pas un détail de ta vie qui ne compte pas pour Dieu. Dieu voit tout et témoin de tout. Je vais dire spectateur, mais il est plus que spectateur. Il est témoin participant, témoin troublé, témoin indigné. C'est le cœur de Dieu qu'on voit dans la Bible. Alors, le mot « consoler », ça veut dire ceci. Venir près d'une personne et partager la douleur afin de la soulager. Donc, se laisser consoler par Dieu, c'est venir, laisser le Père venir près de toi. Ça veut dire t'approcher aussi du Père. Et Dieu partage la douleur un peu. Ça ressemble à compassion, mais il y a une nuance importante ici. C'est que Dieu veut la soulager. La consolation implique un soulagement. Quand un enfant vient de se faire frapper par le petit copain d'à côté, le petit gars, la petite fille court vers papa, papa prend dans ses bras, l'assoit sur les genoux, elle raconte ce qui vient de lui arriver, et quand elle repart, elle a peur, le sourire aux lèvres, va continuer de jouer. Papa m'a reçu, papa m'a accueilli, papa m'a consolé, et elle est dégagée, elle est soulagée. Le psaume 6, verset 9, la deuxième partie, ça dit ceci. « Car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. » J'aime bien ce passage. Même pas des mots que tu dis, mais tes pleurs. Ton Père entend la voix de tes pleurs. Il voit, il est sensible. Donc, la guérison, ce n'est pas une technique. C'est d'abord et avant tout, c'est une rencontre avec un Dieu que tu apprends à connaître qui est sensible et troublé. Une fois, il y avait un enseignant passionné de Dieu. C'était dans mon école quand j'étais en Suisse, un chrétien de moins d'un an. Donc, ça date de 41 ans de ça. Mais je me rappelle encore comme aujourd'hui. C'était un homme un peu corpulent, un peu âgé. Mais pas âgé parce que peut-être mon âge, j'étais jeune encore. Et puis, on avait un plancher de bois franc. Ou peut-être même pas en bois franc. On avait un plancher de bois, en tout cas. Puis quand lui devenait excité, il était comme, « Est-ce que c'est pas excitant en anglais? Isn't that exciting? » Puis il disait, « Doesn't that blow your mind? » Ça fait pas exploser ta tête. Tellement il était excité par rapport à Dieu. Puis le plancher branlait, nous. Puis là, il salivait, puis ça coulait le long de sa bouche. Là. Et puis, mais à un moment donné, il a dit ceci qui m'a vraiment marqué. Il a dit ceci. « Le bonheur de Dieu est constamment troublé. » Aïe, aïe, ce Dieu grand, puissant, tout puissant, est affecté par ce qui se passe sur la planète Terre, par ce qui se passe dans nos vies quand on est injustement traité. Genèse 6, il a dit que Dieu fut affligé dans son cœur. Le mot, verset 6, je pense, le mot affligé veut dire être... d'expérimenter une profonde douleur. C'est notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu sensible et qui peut être troublé par ce que nous, on vit. Alors, c'est une première étape de prendre conscience que je peux m'approcher d'un tel Père. Il te comprend. Encore plus que tu te comprends toi-même. Deuxième étape, c'est être prêt à répandre son cœur puis exposer la souffrance que l'on vit. Si quelqu'un peut nous lire le psaume 142, les trois premiers versets, s'il vous plaît. On ne lira pas pour ce soir l'autre partie, mais l'autre, c'est 1 Pierre 2, versets 20 à 25, mais on va lire le psaume 142. Je vois, quelqu'un est prêt à le lire? Vas-y. Exposer, raconter. Il faut que ça passe de nous à Dieu. Quelqu'un a écrit « Être guéri, c'est être capable de souffrir ». Ce n'est pas évident de ramener des choses du passé. Mais est-ce qu'on a vraiment le choix à un moment donné? Comme j'ai dit cet après-midi, les gens vont ou bien refouler ou bien se défouler. Parce qu'on ne sait pas quoi faire autrement. Mais on sait que de refouler, c'est comme une tumeur cancéreuse. Tu laisses ça t'abîmer, tu restes ça, laisse ça te rendre malade. Alors, il s'agit de pouvoir être prêt à aller sur la table d'opération. Qui aimerait ça aller sur une table d'opération? Personne. Mais si tu as besoin d'y aller, tu veux en tout cas un bon chirurgien, et puis si Dieu c'est le chirurgien parfait, bien, tu vas être prêt à y aller. Puis c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution que d'exposer le mal et l'amener à Dieu. Ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Ça va s'imprimer dans ta vie. Ça va amener il va y avoir des phrases, des paroles, des marques qui vont rester là, qui vont avoir un impact sur ta vie tant et si longtemps que tu n'apportes pas ça au Seigneur. Un enseignant a dit ceci un jour, « Ce qui est refoulé fait des dégâts et nous lie. Il faut que la souffrance aille en quelque part. Si elle ne va pas à Dieu, elle ira tôt ou tard à celui qui nous a offensés parce qu'on va vouloir se venger. » Ou alors, elle nous rendra malades. Donc, il faut que ça aille en quelque part. Le psaume 129, et là, je vais prendre ma Bible. Versets 1 à 4, c'est un passage, d'ailleurs, qui, quand j'étais stagiaire en relation d'aide à la Barque à Lausanne, c'est un passage qui avait été souligné à ce moment-là dans ma formation. Il est dit ceci. Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse, qu'Israël le dise, puis là, tu mets ton nom, tu mets ton prénom, que René le dise. Souvent, ils m'ont attaqué dès ma jeunesse, mais ils ne l'ont pas emporté sur moi. Alors, il faut le dire. Le texte dit, puis alors il répète. Donc, il faut dire ce qui a pu nous arriver. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Et là, j'aime l'image, parce que c'est un peu les marques de mon histoire, dans mon passé. Des choses ont labouré mon dos, ont laissé des sillons, laissé des marques. L'Éternel est juste. Il a détaché les cordes des méchants. Et ça, c'est une clé, ce verset 4. Dieu fait justice en détachant les cordes de la méchanceté. Comment est-ce que Dieu fait ça? Comment est-ce qu'il exerce la justice? Alors, la troisième étape, c'est l'étape vers la consolation, où on est appelé à déposer cette souffrance, et pas n'importe où, mais à la croix. Et ça, j'en ai parlé cet après-midi, mais j'y retourne avec vous dans Ésaïe 53. Pour moi, la relation d'aide, si elle se veut vraiment biblique, elle ne peut pas passer à côté de la croix. La croix est centrale pour la vie chrétienne, et pour moi, si elle est centrale pour la vie chrétienne, ça inclut aussi tout l'aspect de la guérison. Le texte d'Ésaïe 53 est fantastique parce que ça a été prophétisé environ 700 ans avant la venue de Christ et avant sa mort sur la croix. Et c'est la plus belle description que je trouve dans la Bible sur ce qui s'est passé à la croix. Je commence seulement pour faire un peu plus court, là je prends juste quelques versets, à partir du verset 4. « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alors souvent, on voit la croix comme étant le lieu du pardon des péchés uniquement, et c'est vrai que c'est l'essentiel, c'est ça, le pardon des péchés, mais on a tendance à penser que Jésus n'a pas pris aussi nos souffrances, mais le texte nous dit qu'il a porté nos souffrances. Et il n'a pas juste porté mes souffrances à cause de mes propres péchés, parce que par exemple, si je bois comme un ivrogne, je vais avoir la cirrhose du foie, je souffre à cause de mon péché. Mais si je ne fume pas et tu fumes et tu habites dans le même appartement que moi, je peux souffrir à cause de ton péché, parce que tu vas m'emboucaner les poumons. Ce n'est pas ma responsabilité. Donc, il y a des souffrances qui ne sont pas celles que j'ai faites, dont je suis responsable, mais dont je suis victime. Et Jésus a porté toutes les souffrances, celles que j'ai faites, celles qu'on m'a faites. Je vais sauter la prochaine diapositive, je vais y revenir après. Tac, tac. J'ai quelques citations pour exprimer l'œuvre de la croix. Un premier auteur, Tom Marshall, un enseignant de Nouvelle-Zélande qui est décédé maintenant, a dit ceci. « Christ nous rachète des maladies physiques, mentales et émotionnelles. Tout a été accompli à la croix. » Un autre auteur, Bruce Thompson, a dit « On reçoit le pardon quand on apporte nos péchés à Jésus. » On reçoit la guérison quand nous apportons nos blessures à Jésus. Et finalement, une dernière citation de mon mentor quand j'étais à la barque à Lausanne, il a dit ceci, « Jésus a porté le mal que j'ai fait et le mal qu'on m'a fait. Tout se résout dans la personne de Jésus. Jésus a tout porté. » Alors, il y a là quelque chose d'important qu'on doit saisir. C'est ni je me refoule pas, je me défoule pas, je dépose parce que je transfère ce que je porte sur la croix de Christ. Comme je disais après-midi, n'essayons pas d'expliquer ça rationnellement. Mais nous savons cela avec notre intelligence spirituelle. Nous savons que quand on confesse nos péchés, ça passe de nous à Jésus. C'est transféré à la croix. Mais quand je dis ma souffrance, ma douleur de ce qu'on m'a fait, et je le dis à Jésus, c'est la même chose qui va se passer. Par la foi, je ne le porterai plus. Je ne vais pas perdre la mémoire, mais l'événement vécu n'aura plus son impact blessant parce que ce sera passé de moi à Jésus. Comment? Par ma bouche et mon cœur. Avec sincérité, dire « Dieu, je te remets le mal qu'on m'a fait. » Je le dis de ma bouche, je le dis de mon cœur. Je vais revenir là-dessus dans un petit moment. Mais il y a un petit vidéo un petit clip de quelques minutes qui avait été demandé par un pasteur, dans un pays asiatique, pour que, de manière animée, on essaie d'exprimer, mais qu'est-ce qui a pu se passer à la croix? Et donc, des gens ont créé ce vidéo pour qu'on puisse visualiser un peu de quelle façon, au moment où Christ est mort sur la croix, il a porté les péchés de l'humanité, les maladies de l'humanité, les malédictions de l'humanité. Et il y avait un quatrième mot, parce que vous allez voir dans ce vidéo, qui est uniquement en anglais, mais il y a très peu de paroles, vous allez voir dans ce vidéo ce qui tombe sur Jésus et ce qui va tuer Jésus et qui va nous permettre de comprendre que je peux tout transférer de moi à Jésus parce que Jésus, à la croix, a tout porté. Alors, si tout va bien techniquement, on devrait pouvoir entendre ça. Et là, je vais mettre le micro. On a un système, Joël et moi, extraordinaire pour le son. Oh, tu lèves, là. OK, je laisse ça ici. OK. Tu vas le tenir?
Oui.
Tu vas faire ça.
Et quel homme formidable. On a combien d'ingénieurs dans la salle?
Thank you.
pas expliquer rationnellement ce qui s'est passé à la croix, mais Ésaïe 53 dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, il y a 2000 ans environ, Christ a spirituellement, dans son esprit et dans tout son corps qui a suivi après, parce que son corps n'a pas tenu le coup, c'est spirituellement, ils étaient surpris qu'il soit déjà mort physiquement, parce que les deux autres prisonniers n'étaient pas morts. Donc, ils n'ont pas eu besoin de lui casser les jambes pour qu'il meure. Alors, on ne peut pas expliquer rationnellement comment les choses ont pu se faire, mais cette animation nous donne une idée qu'il y a eu dans les lieux célestes à un moment donné où tout est tombé sur Christ. Nos péchés, nos souffrances à cause de nos péchés, nos souffrances à cause des péchés des autres contre nous, la malédiction et les maladies, et tout, Jésus a tout porté. Ce qui fait que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et là, on voit le Christ a payé un grand prix. Souvent, on pense que le Père n'a pas souffert. Et il y a toutes sortes de théologies là-dessus aussi. Je ne vais pas m'allonger là-dessus. Mais il y a des gens qui vont dire que le Père ne pouvait pas abandonner Jésus. C'était son Fils, puis Dieu est amour. Mais moi, je dis, le péché, le résultat du péché, c'était la séparation. Ce n'était pas juste une mort physique, hein? Mais il y a une séparation qui s'est passée entre nous et Dieu. Et il fallait qu'il y ait une séparation dans la Trinité même pour payer à notre place, pour qu'il n'y ait plus de séparation entre nous. Alors, le Père et le Fils ont été séparés, ont souffert comme dans un divorce. Pendant combien de temps, je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Mais le Père a souffert avec le Fils. Ce n'était pas que le Fils qui souffrait sur la croix, puis le Père qui crève. Non, c'était les deux ont souffert de cette situation-là. Donc, le prix a été payé. Et on est invité, donc, à déposer à la croix nos souffrances. En 1994, ça fait maintenant 22 ans, il y a eu un génocide au Rwanda. On se rappelle de cette histoire avec les Hutus, les Tutsis. Et après ce terrible génocide, après ces massacres effrayants, il y a un psychiatre chrétienne britannique, son nom c'est Rhiannon Lloyd, qui a été envoyé là-bas pour aider les gens traumatisés à se sortir de cette terrible situation. Et ce qu'elle avait fait, elle, avec eux, elle avait parlé de la croix et elle avait fait faire une croix. Puis elle a demandé aux gens d'écrire sur une feuille leur souffrance, leur traumatisme. Il les a fait clouer sur la croix ces feuilles-là. Et les gens venaient déposer avec l'arme ces feuilles-là et clouaient ça à la croix. Et après, ils ont mis le feu sur ces feuilles-là. Quelques jours après, il s'est dit, il faudrait bien que je leur parle du pardon. Elle n'avait pas parlé de pardon encore. Parce que je l'ai dit aujourd'hui, je pense, c'est mentionné. Ce n'est pas le pardon qui guérit, c'est la croix qui guérit. Le pardon, c'est une réponse. Il y a des gens qui vont dire, pour être guéri, pardonne. Hein? Ce n'est pas de même que ça marche. Je ne crois pas du tout que ça marche comme ça. Pour être guéri, tu vas à Jésus. Puis après, il va donner la capacité de pardonner. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, je ne suis pas capable de pardonner, je ne veux pas pardonner. Si tu savais ce qu'on m'a fait, tu comprendrais, je ne veux pas pardonner. Moi, j'accueille ces gens-là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Raconte-moi. On va à la croix. Après, la personne, maintenant, je suis libéré, je suis dégagé, je suis justifié en Christ. Il a payé pour mon offenseur. Comme il a payé pour Caïn. Dans Hébreux, chapitre 12, ça dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance. Le sang de l'aspersion parle mieux, parle de miséricorde, de grâce. Jésus a payé pour Caïn et pour Abel. Alors, Jésus a payé. Alors, ces gens-là, quelques jours après, ils venaient pour leur parler du pardon, puis ils se rendent compte que plusieurs personnes avaient déjà pardonné. Pourquoi? Ils avaient été rencontrés par Dieu. Si dans ta vie, tu as un problème à pardonner quelqu'un, reste pas bloqué par ça. Raconte ce qui t'est arrivé, donne-le à Jésus, puis il va, après ça, te donner cette capacité de pardonner. Alors, quand on vient à Jésus, c'est pas... Jésus, tu vois ma vie passée, tu vois mes 5 années d'enfance très malheureuses ou 10 années d'enfance très malheureuses, je te donne tout ça dans le nom de Jésus, amen. ne marche pas de même. Pourquoi ça ne marche pas de même? Parce que tu as tout enregistré. Tu as tout enregistré. C'est tout là. Il y a des émotions, des souvenirs, des images et des noms de personnes, des paroles précises. Il faut que ça passe de toi au Seigneur. Alors, il faut que tu racontes. Il faut que tu décrives la scène. C'est comme si tu étais en train de regarder le film de l'événement avec Jésus et le Père assis, un de chaque côté de toi. Puis tu regardes ça avec eux. Tu leur racontes. Voilà comment je me suis senti. Voilà ce qu'on m'a fait. Jésus, je te donne ça. Prendre le temps de déposer. Et la quatrième étape est importante, c'est recevoir la consolation. Ça peut paraître évident, qui ne veut pas recevoir la consolation? Mais il y a des gens qui ne veulent pas recevoir la consolation. Pourquoi? Ben, si j'ai plus mon problème, je ne pourrai plus attirer la pitié des gens autour de moi. Je préfère l'attention des gens autour de moi. Ça peut être un piège pour certains. D'autres disent, si j'ai plus ce problème-là, ça veut dire que je vais pardonner mon offenseur? Pas question, je vais garder ma colère. Ça peut être subtil, mais des fois, on veut garder. On veut garder rancune. On ne veut pas régler le problème parce qu'on veut nourrir cette vengeance. Et il y a une non-chrétienne québécoise qui a dit ceci, « Le non-pardon, c'est boire du poison en espérant que l'autre va être malade. » C'est boire du poison toi-même en espérant que l'autre va tomber malade. Alors, on a intérêt à viser qu'en cours de route, il y aura le pardon. Et puis, pour certains, ce sera un refus de croire, de vouloir que tout se règle au pied de la croix. Peut-être dire, c'est trop simple, je ne veux pas ça. Je vous lis quelque chose que j'ai trouvé super d'une femme qui avait écrit dans une revue suisse, la revue Certitude. Nos amis suisses ici vont peut-être connaître cette revue-là. Ça date de peut-être 30 ans, ma citation, mais ça vaut la peine. Je vous la lis ici. Mais voilà que dans le texte archi-connu de Matthieu 2, 18, une toute petite phrase m'a sauté aux yeux. Rachel pleure ses enfants et ne veut pas être consolée. Ça, c'est quand ils ont tué les bébés de 2 ans et moins. C'est cette période-là qu'on voulait tuer Jésus. Je pose la question. La miséricorde n'est-elle pas tout entière dans cette consolation proposée? Et nous-mêmes, à chaque fois que nous refusons d'être consolés, secourus dans nos difficultés, relevés quand nous sommes à terre, préférant nous cramponner à notre chagrin, nous apitoyer sur nous-mêmes, n'est-ce pas que nous refusons aussi le secours de cette droite puissante? Même si elle n'intervient pas toujours dans le déroulement des événements, donc dans notre quotidien, Dieu qui n'a pas empêché ce viol, par exemple, parce que la vie doit suivre son cours, lieu d'apprentissage et terrain de combat nécessaire, cette droite puissante s'offre à nous, secourable et bonne. Compatissante, la grâce n'ignore rien de nos pensées, nos déboires, mais c'est nous qui ne sommes pas à son rendez-vous. Peut-être qu'avant d'incriminer cette absence de Dieu, dont il est souvent beaucoup question aujourd'hui, pourrions-nous chercher à savoir où nous en sommes et jeter nos cris ailleurs que dans le vide, au pied de la croix, où ils seront entendus, seul le sang du Christ peut éponger le sang des innocents et laver nos blessures. Quelle belle citation. Donc, il faut vouloir être consolé. Alors, quand la personne vit ça de manière authentique, elle est dégagée, elle est libérée. L'événement passé ne fait plus mal, parce que le mal a passé de moi à Jésus. Et avec témoins très souvent, on en a parlé cet après-midi, on va le détailler un peu plus maintenant. Moi, j'ai vécu des choses tout seul, même une fois tout seul en public, ça, je vous la garde pour demain, ce soir-là, mais une fois, dans mon école de relations d'aide, donc ça veut dire ça à l'âge de 35 ans, dans mon lit, je repassais avec le Seigneur un souvenir d'adolescence où j'étais très blessé, je pleurais comme un veau dans le milieu de la nuit. Ma femme dit « Ça va, chérie? » Ça allait très bien parce que j'étais en chirurgie. Mais ça faisait du bien. Mais très souvent, je dirais très, très, très souvent, on a besoin d'être accompagné dans le processus. Je ne dis pas ça parce que je vais avoir des clients en relation d'aide et puis que faire marcher la profession, mais parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se passer dans un contexte où on a d'autres personnes avec nous qu'on ne peut pas nécessairement vivre seul. Alors, la référence Matthieu 18, versets 18 à 20, dit ceci. Puis là, Là, je ne vous promets pas que mon interprétation du passage est adéquate. Ceux qui font de l'exégèse, qui ont bien étudié ce passage biblique, il y a plusieurs interprétations. Si on regarde le contexte, je le prends hors contexte parce que ça fait mon affaire. Mais, donc, je mets la nuance avant de partir. Comme ça, vous, groupe d'étudiants GBU, groupe biblique universitaire, je me soumets à vous ici dans mon application. C'est-à-dire, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a une présence de Dieu particulière, je pense, quand on est avec d'autres personnes. Et il y a des choses qui peuvent être déliées. On peut vivre dans la prière, vivre des paroles d'autorité qui vont avoir un effet de libération dans la vie des personnes. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles témoins peuvent être utiles. Première raison, c'est que ça peut aider à une prise de conscience. Je donne simplement... on échange, quelqu'un va échanger avec moi, voici ce qui m'est arrivé, etc. Puis je lui dis, tu ne penses pas que cette parole-là a un effet dans ta vie? Puis on dit, ah oui, je n'ai jamais pensé à ça, mais tu as raison. Prise de conscience dans l'échange. Quelque chose qu'on ne voyait pas, puis quelqu'un nous aide à voir. Ensuite, l'autre personne peut avoir des paroles du Saint-Esprit pour toi, que ce soit des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, si vous croyez au don du Saint-Esprit encore pour aujourd'hui, et qui vont aider le processus. La personne va peut-être te dire, mais il me semble que le Seigneur me met sur le cœur que quand tu étais jeune, tu as vécu une situation qui ressemble à ceci. Et ça a du bon sens pour toi, personne. Exactement, ça c'est arrivé dans ma vie. Les gens aussi peuvent, en nous écoutant, se mettre d'accord avec nous et dire, tu sais, ce qu'on t'a fait là, c'était vraiment pas juste. Et ça n'était pas de ta faute. Ça dit, oh! Il n'y a pas longtemps, une semaine, je pense qu'il y a une semaine, en relation d'aide, c'était il y a 3 semaines, mais la dame, quand elle est revenue la semaine dernière, j'avais prononcé une parole pour sa vie en disant, tu avais raison d'avoir été dérangé par cette situation, monsieur. Plus de détails, des paroles. Mais pour elle, ça a eu un effet de déblocage dans sa vie. Pour une fois, elle se donnait la permission de ne pas avoir été d'accord avec un comportement de ses parents, de sa mère, entre autres. D'avoir été blessé dans une situation. Dans d'autres situations, ça va nous aider à briser le mur du silence et de la honte. Parfois, on peut être gardé, emprisonné dans la honte. On n'ose pas dire une situation parce qu'on a honte de ce qui nous est arrivé. Puis on est dans un mur. Alors, de partager avec d'autres va nous aider à sortir de cette honte-là. Il y a aussi, nos témoins peuvent contrer des paroles d'autorité qui ont été dites contre nous par d'autres paroles d'autorité qu'on va dire dans le Seigneur. Si la personne est liée par des paroles accusatrices d'un professeur, d'un père, etc., nous pouvons ensemble s'entendre dans la prière pour contrer ces paroles-là dans le nom de Jésus. Délier la personne. Parfois aussi, il y a au travers des blessures émotionnelles, l'ennemi peut venir. Exemple, un rejet, un profond rejet vécu dans l'enfance est une blessure émotionnelle. Il est une plaie ouverte. Qui s'est pas soigné, c'est comme si tu te coupes et tu n'es pas soigné, tu peux avoir de l'infection. Et l'ennemi est assez méchant et sournois pour venir te tenir lié par un esprit de rejet par-dessus ta blessure. Et quand ça... Je ne sais pas, c'est toujours comme ça, non? Mais si c'est discerné dans la prière, alors il y a des paroles d'autorité qui peuvent être faites par les gens qui sont avec nous pour... dire à l'ennemi maintenant de s'en aller, qui n'a plus de pouvoir prendre autorité contre l'esprit de rejet dans le nom de Jésus. Donc voilà plein de bonnes raisons pour lesquelles c'est utile de considérer, partager quelque chose qui t'habite avec quelqu'un, une, deux ou trois personnes à qui tu as confiance. Il faut qu'il y ait une relation de confiance, bien sûr. Je pense que dans un contexte de GBU, il y a des contextes pour ça, de confiance qui s'établissent. comme une retraite, puis des rencontres ici et là, il y a, au cours de l'année, vous pouvez établir des relations de confiance et j'aimerais prier avec toi. Je ne sais pas, dans l'application, après la soirée, peut-être qu'il y en a qui aimeraient se retrouver deux ou trois, il y aurait peut-être des gens qui aimeraient prier avec moi ou avec d'autres, des responsables des GBU. Dire, ben là, je pense que ça, je suis mûr. Le fruit est mûr, là, je vois clair, puis je suis prêt à déposer ça. Et pour d'autres, c'est, je ne suis pas prêt encore, mais là, je vois que je veux aller dans cette direction-là. Et puis, je veux en finir avec cette blessure que je porte depuis trop longtemps, j'en ai ras-le-bol, mais je vois que Jésus est la réponse à mon problème. Donc, en application pour cet enseignement, puis dans quelques instants, je donne la parole à Kathleen. Le plus important de ce qu'on a dit ce soir, c'est que ton Père céleste est un Père compatissant et un Dieu de toute consolation. La deuxième chose importante qu'on a vue, c'est la croix est au centre. Et le verset 5 dans 2 Corinthiens 1 dit que... Ça dit quoi? Le verset 5 nous parlait des souffrances de Christ. Je devrais savoir par cœur, mais je veux quand même lire ici. Les souffrances de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. J'y vois la centralité de la croix ici. Donc, ça, c'est l'autre aspect important. Jésus a tout payé. Tout a été accompli. Quand il a crié sur la croix, « It is finished, c'est terminé, that's it, that's all », j'ai réglé le problème du péché et de la souffrance dans l'humanité, une fois pour toutes. Mais maintenant, il faut aller à la croix. C'est comme tu as un compte à la banque, mais cet argent qui est à la banque, il ne sera jamais dans ta poche si tu ne vas pas le retirer à la banque. Alors, la croix, c'est ta banque. Tant ou longtemps que tu ne vas pas à la banque, là, on ne parle pas de retrait, là, on parle de dépôt. Tu vas déposer la souffrance. Tant que longtemps, tu ne vas pas déposer à la banque, tu vas garder ça à l'intérieur de toi. Donc, application, c'est considère le film de ta vie. Si j'avais le DVD de ta vie ici, puis que je le mettais dans mon ordi, que tout le monde voit, puis tu dis, oh, il y a des scènes que je ne veux pas que vous regardiez. Il y a des scènes, c'est nos péchés, mais il y a des scènes, c'est nos souffrances aussi, des choses qu'on nous a faites. Non, je ne veux pas que vous voyez ça, ça va être trop mal. Alors, c'est peut-être un indicatif. Je veux voir le film avec Jésus et avec mon Père. Et à ce moment-là, de dire, mais maintenant, je veux remettre ça à Jésus. Et éventuellement avec des témoins. Parce que ça, c'est lourd pour moi, puis je ne vois pas très clair, puis j'ai besoin d'appui. Puis je vais prier avec d'autres. Alors, Jésus nous a promis la vie, et la vie en, et ça c'est dans Jean 10, verset 10, et ce n'était pas un mensonge, c'était vrai, et vraiment on peut voir, plus on avance dans l'enseignement, on peut voir la richesse, l'héritage qu'on a en Christ. Donc, à cause de l'amour du Père manifesté en Christ, on a accès à cette abondance dans le Seigneur.